Jean-Yves Goffi va nous parler des relations entre l'homme et l'animal ce soir. Il est né en 1949. Il est philosophe, agrégé de philosophie et docteur ès lettres. Il a été professeur de lycée, puis professeur de classe préparatoire, et ensuite il est devenu maître de conférences de philosophie et logique à l'université Pierre Mendès France et à l'université de Grenoble II. On trouve de lui deux publications, essentiellement, il y a beaucoup d'articles, mais deux publications dont au moins une est aisément accessible. Il a écrit un excellent que sais-je, sur la philosophie de la technique auprès universitaires de France, hein, et cet ouvrage est toujours disponible. Et puis il a écrit aussi un livre sur le philosophe et ses animaux, du statut éthique de l'animal, c'est-à-dire sur le statut éthique de l'animal. Je lui passe tout de suite la parole. Merci.
Bien, donc, je remercie les organisateurs de l'Université de tous les savoirs et spécialement le professeur Michaud d'avoir pensé à moi pour cette conférence dans laquelle il va être question des relations entre l'homme et l'animal. Alors pour introduire mon propos, je voudrais partir de quelque chose qu'on trouve au musée de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, où est situé le musée Fragonard. Alors le Fragonard qui est au musée de l'École d'Alfort, ce n'est pas le peintre Jean-Honoré Fragonard, c'est Honoré Fragonard, le cousin germain du premier. Honoré Fragonard est par formation un chirurgien. Il a été professeur d'anatomie à l'école vétérinaire de Lyon quand celle-ci a été fondée au XVIIIe siècle. Il y a réalisé un nombre important de pièces anatomiques qui aujourd'hui sont disparues. Lorsque l'école vétérinaire d'Alfort a été organisée en 1766, on a fait appel, encore une fois, à Fragonard, qui en est devenu le directeur, tout en continuant à professer l'anatomie. Il a réalisé alors des milliers de pièces anatomiques et une cinquantaine d'écorchés, dont une vingtaine subsistent encore aujourd'hui et sont exposées au musée de l'école, dit musée Fragonard. Alors les écorchés de Fragonard, si vous avez un jour l'occasion de les voir, ce sont des choses extrêmement impressionnantes et en rupture complète avec les réalisations habituelles de la séroplastique, réalisations qui sont déjà rarement de tout repos, même dans leur plus grand état de classicisme. La séroplastique, l'art des cires anatomiques, a une vocation primitivement pédagogique, puisque les cires permettent l'étude de l'anatomie sans avoir à procéder à des dissections. Or, sans doute, à l'âge d'or de la séroplastique, au XVIIIe siècle, il n'y a plus d'interdit religieux à la dissection de cadavres humains, mais de fait, il est très difficile de s'en procurer, puisque, en général, on doit avoir recours à des suppliciés ou à des indigents morts à l'hôpital, ce qui implique toutes sortes de tractations plus ou moins louches avec des bourreaux ou avec des gardiens de salle. En outre, les dissections sont dangereuses. On a vu souvent des étudiants ou des professeurs mourir de septicémie au contact d'un cadavre mal conservé. Et puis, plus profondément, peut-être encore, la séroplastique réalise l'idéal de Vésale tel qu'il se manifeste dans les illustrations de la fabrique du corps humain, cet idéal consistant à dépouiller le corps, d'une part, de toutes ses opacités fonctionnelles, d'autre part, du réseau de signatures qu'il intègre à l'ordre du cosmos, et d'en révéler alors la structure propre dans ce qu'elle avait de plus intime et de plus dissimulé. Mais les séroplasticiens classiques ont longtemps persisté à camoufler cette foncière indiscrétion de leur entreprise, et par exemple, la Vénus médicéenne qu'on trouve au Joséphinum de Vienne expose à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle le montre et qu'elle le raconte, son système digestif, mais elle était moulée d'après une statue du Bernin qu'on trouve à Rome, la bienheureuse Ludovica Albertoni. Fragonard lui, ne va pas s'embarrasser de ses alibis esthétiques, il ne va pas s'encombrer de ses pudeurs. Il va utiliser deux techniques, l'injection corrosion, au cours de laquelle des cires liquides sont injectées dans les vaisseaux sanguins du cadavre. Lorsque ces cires se sont solidifiées, les tissus graisseux qui les entourent sont dissus, révélant alors le système vasculaire comme une arborescence. Et l'autre technique de Fragonard consiste à réaliser des écorchés en repoussant la peau qui est conservée, repliée, séchée et vernie afin de dégager tel ou tel organe. Comme pour accentuer la violence qu'il y a à révéler ce que la nature garde habituellement secret, Fragonard a donné à ces écorchés, qui ne sont pas, vous l'avez compris, des cires, mais bien d'authentiques cadavres, des poses volontiers agressives, voire obscènes. Il est difficile au juste de savoir ce que visent de tels sarcasmes. Est-ce qu'il s'agit de tourner en dérision une virtuosité qui ne s'exerce que sur des cadavres ? Est-ce qu'il s'agit de souligner le côté dérisoire des secrets ainsi révélés ? On n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, l'œuvre la plus fameuse de Fragonard est, puisqu'on ne saurait dire d'elle qu'elle représente quoi que ce soit, est donc un cavalier squelettique parfaitement rigide sur une monture spectrale, monture figée dans ce qui est approximativement le premier temps du galop. Et on n'a pas manqué de baptiser ceci, bien entendu, le cavalier de l'Apocalypse. Alors je voudrais relever ce qu'il y a d'insolite et pourtant d'exemplaire dans cet écorché de Fragonard. L'être humain et l'animal y sont, pour une fois, montrés comme des égaux, également fragiles et périssables, également exposés à la destruction et à la mort, également voués au néant, et cependant capables de poursuivre par-delà le néant un compagnonnage entamé peut-être de leur vivant. Alors en un sens, la question que je voudrais aborder ce soir, c'est le prolongement philosophique de ce que Fragonard a si magistralement mis en scène. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, nous formons sans doute par définition une communauté de vivants avec les autres animaux. Une communauté de vivants. Cela veut dire que, à titre de vivants, nous possédons en commun avec eux des propriétés essentielles. Et depuis la publication de l'Origine des espèces en 1859, il y a de bonnes raisons de penser que cette communauté est plus étroite encore qu'on était disposé à l'admettre jusque-là. Mais nous formons une communauté de vivants, formerions-nous peut-être également une communauté morale ? C'est cette question que je voudrais aborder. Et comme c'est une question qui peut sembler incongrue, peut-être, bizarre, je voudrais la préciser brièvement afin de répondre à une question, à une objection, qui en un sens est inévitable et légitime, mais qui en un autre sens, me semble-t-il, est mal fondée. On est spontanément enclin, en effet, à interpréter l'expression « communauté morale » de façon kantienne, un peu comme si on parlait du règne des fins. Or, par règne des fins, Kant entend la réunion systématique de divers êtres raisonnables par l'effet de lois communes. Il ne saurait donc exister de communauté raisonnable, nous les êtres humains, avec des êtres qui ne le sont pas, eux les animaux. Mais on peut entendre autrement, et heureusement, on peut entendre autrement l'expression communauté morale que Kant ne l'entend. Il est certain, par exemple, que nous nous imposons toutes sortes de restrictions dans nos rapports avec des êtres humains qui, individuellement et personnellement, seraient incapables d'obéir à une législation morale universelle de style kantien et encore moins capables d'être partie prenante dans la constitution de celle-ci. Je pense aux enfants en bas âge, je pense aux démons, je pense aux vieillards séniles, etc., etc. Or, même si des considérations prudentielles entrent en ligne de compte dans cette affaire, ce n'est probablement pas pour des motifs simplement prudentiels, que nous, les agents moraux, capables d'autonomie et de rationalité, agissons de la sorte envers eux, c'est-à-dire les patients moraux, destitués de telles compétences. La raison est sans doute que nous pensons détecter en eux certaines propriétés qui nous imposent des restrictions dans notre comportement à leur égard. Eh bien, ne pourrait-on pas raisonner de façon analogue en ce qui concerne les animaux, ou du moins certains d'entre eux? Sans doute, personne ou presque personne ne s'attend à voir les bêtes se comporter comme des êtres autonomes et rationnels, mais il n'est peut-être pas absurde de relever en elles certaines caractéristiques qui, pour n'être ni la raison, ni l'autonomie, ni l'humanité, n'en sont pas moins significatives. Et il n'est peut-être pas absurde non plus d'estimer que la présence en elles de ces caractéristiques justifie que nous, les êtres humains, nous imposions dans leur rapport avec elles des restrictions comparables en leur nature, sinon en leur contenu, à celles que nous nous imposons lorsque nous avons affaire à d'autres êtres humains. La question ainsi posée devient alors celle-ci: qu'est-ce que ces caractéristiques peuvent bien être? En quoi peuvent-elles constituer? Sans avoir la prétention d'être exhaustif, je voudrais explorer certaines réponses à cette question. Explorer certaines réponses signifie deux choses. D'abord, pointer, désigner, repérer ces caractéristiques jugées significatives. Ensuite, essayer de préciser les restrictions qu'elles sont aptes à justifier. Et quatre réponses me semblent particulièrement importantes dans cette affaire. Je voudrais essayer de les faire apparaître à vos yeux. Une première tradition va être attentive au statut de créature de l'animal. Une seconde tradition va souligner chez les animaux une capacité à souffrir qui les distingue des simples bêtes. Une troisième approche va estimer qu'il y a dans la vie animale, chez les animaux, certains intérêts qui se manifestent. Et une dernière tradition va tenter de discerner en lui quelque chose comme une vie mentale subjective qui justifie que n'importe quoi ne soit pas permis à son égard. Je vais commencer par la première de ces quatre traditions que j'ai relevées, et je l'appellerai, faute de mieux, la pensée chrétienne. Celle-ci insiste sur le fait que les animaux sont des créatures. Alors bien entendu, j'ai parfaitement conscience de ce que l'expression pensée chrétienne peut avoir de peu satisfaisant, et particulièrement quand il est question des rapports avec l'animal. Alors pour donner deux exemples extrêmes, le théologien allemand contemporain, Eugène Drewermann, aussi bien que Nicolas Malebranche, le disciple de Descartes au XVIIe siècle, se présente comme des chrétiens. Pourtant, le premier, Drewermann, reconnaît aux animaux un droit à l'immortalité, contrepartie de la souffrance à laquelle ils sont livrés. Pour le second, Nicolas Malebranche, la possession d'une âme immortelle est à ce point un attribut de l'humanité qu'il préfère nier l'existence de la souffrance animale et traiter les bêtes en conséquence, c'est-à-dire comme des machines insensibles, plutôt qu'admettre qu'elles puissent avoir seulement une âme sensitive. Malgré tout, malgré ces divergences évidentes, l'idée quand même commune dans cette affaire, c'est que le monde est une créature, ce qui va entraîner toutes sortes de conséquences importantes. Et pour commencer, le rapport entre ce monde créé et son créateur n'est pas du tout du même genre que celui qui pouvait exister, par exemple, chez Aristote, entre ce qui est mu, le monde, et son moteur éternel, Dieu. Pour parler comme les médiévaux, le Dieu chrétien ne donne pas seulement le mouvement, ni même principalement le mouvement, il donne l'être. Dans un tel monde, créé, tiré du néant, l'attitude du croyant va être, par principe, une attitude de réserve. C'est ce qu'exprime parfaitement la distinction augustinienne entre outil et fruit. Ces deux verbes désignent deux façons de se comporter à l'égard des choses. Jouir, fruit, c'est s'attacher d'amour à quelque chose en raison de cette chose même. User de quelque chose, outil, c'est rapporter ce qui se présente à ce qui est aimé comme un moyen d'obtenir la chose aimée. Fruit est donc de l'ordre de la fin, outil est seulement de l'ordre des moyens. En conséquence, ne peut être objet de jouissance que l'être qui a une valeur intrinsèque, tout autre être n'a qu'une valeur instrumentale. C'est le cas, évidemment, des êtres de nature, de la nature en général. Ils sont des impedimenta, des bagages, dont il vaut bien que le croyant se charge au cours de son pèlerinage terrestre, mais ce n'est évidemment pas par amour pour eux que ce pèlerinage est entrepris. Est-ce à dire que le pouvoir de l'homme sur la nature est absolu ? Or, certains passages de l'Écriture semblent le suggérer. Par exemple, dans le livre de la Genèse, chapitre 9, versets 1 à 3, Elohim bénit Noé et ses fils et leur dit, je cite, « La crainte et l'effroi que vous inspirerez s'imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux, tous ceux dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer, il en sera livré à votre main, tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme l'herbe verte, je vous ai donné tout cela. » Fin de citation. Donc, cet extrait de l'Écriture semble montrer que le pouvoir de l'homme sur les êtres de nature est sans limite. Mais, en fait, les choses sont un peu plus complexes. Si la nature est une créature et n'a donc rien de sacré, elle s'inscrit toutefois dans un plan de création et possède, par conséquent, sa propre perfection. Cette perfection n'est pas celle du cosmos des Grecs, d'autant plus souveraine qu'elle maîtrise et domine de façon impersonnelle des forces obscures et démesurées. Elle est une perfection instaurée par une volonté qui veut le bien de toutes les parties et qui veut que la part de chacune de ces parties soit bonne. En conséquence, si la nature est un ensemble de ressources à la disposition de l'humanité, celle-ci peut en faire un bon ou un mauvais usage. Chaque fois que les êtres de nature seront utilisés en un sens contraire à leur perfection propre, on aura affaire à un usage condamnable. La domination de l'homme sur le reste de la création est de droit, mais ce n'est pas parce que la nature n'a de valeur qu'instrumentale qu'elle peut être intégralement instrumentalisée. Le pouvoir de l'homme sur le monde n'est pas le pouvoir illimité d'un despote, il se compare plutôt à celui d'un intendant à qui des comptes seront demandés. Ça, c'est les rapports entre l'homme et la nature en général. Qu'en est-il des rapports entre l'homme et les animaux en particulier ? Eh bien, visiblement, il existe une tension entre deux attitudes. Une attitude radicale qui consiste à affirmer que les animaux ne comptent pas, ni moralement, ni juridiquement, et une attitude plus nuancée qui incline à leur attribuer une certaine importance. Peut-être cette tension qu'on trouve dans la pensée chrétienne découle-t-elle du fait que les deux récits de la création, celui du chroniqueur et celui du yahouiste, diffèrent assez sensiblement en ce qui concerne la place et le statut des animaux au sein de la création. Toujours est-il qu'on trouve dans l'histoire du christianisme une perpétuelle hésitation entre ces deux attitudes. Saint Augustin, par exemple, s'inscrit plutôt dans la tradition qui accentue la différence de nature entre l'homme et la bête, et comme il l'affirme dans un passage étonnant d'un écrit anti-manichéen, je le cite, « Nous n'avons pas de société juridique, » il emploie l'expression latine « iuris societas », « nous n'avons pas de société juridique avec les animaux et les plantes. » Fin de citation. C'est une idée qui est probablement d'origine stoïcienne, mais quand même, force est de constater qu'elle a été très facilement acclimatée chez ce père de l'Église. Chez saint Thomas, par contre, l'analyse est assez différente. Il va distinguer entre l'affectivité réglée selon la raison et l'affectivité réglée selon la passion sensible. Selon la première sorte d'affectivité, celle qui est réglée selon la raison, rien n'empêche l'homme d'agir à sa guise avec les animaux. Dieu ne s'occupe pas d'eux et il ne demandera pas de compte aux hommes en ce qui les concerne. Mais du point de vue de l'affectivité qui dépend de la raison sensible, c'est plutôt l'indice d'un naturel miséricordieux que de ressentir de la compassion à l'occasion des souffrances affectant les bêtes. Si on éprouve un tel sentiment de pitié à l'égard des animaux, on s'en trouve favorablement disposé à le ressentir envers les hommes. En un mot, si je puis employer cette comparaison un peu osée, en un mot, la bonté avec les animaux, c'est une sorte de banc d'essai pour la charité envers les hommes. En conclusion de cette première tradition, je dirais que du fait que les animaux sont présentés comme des créatures et que Dieu s'affirme en toute sa création, découlent certaines restrictions assez importantes en ce qui concerne les bêtes. Ne pas leur infliger de souffrances inutiles, ne pas entreprendre sur eux certaines expériences, comme par exemple fabriquer des chimères ou des organismes transgéniques. Toutefois, s'ils sont ainsi protégés, ils sont protégés pour des raisons indirectes, qui peuvent être, par exemple, la crainte respectueuse du Seigneur jusqu'en ses plus humbles créatures ou l'amour que l'on doit à ses frères humains. Les animaux ne font pas partie, en toute rigueur, de la communauté morale. Ils sont situés aux franges de celle-ci. Ils peuvent bénéficier de certaines restrictions, mais en toute rigueur, ces restrictions ne s'appliquent et ne se comprennent, pleinement qu'à propos des êtres qui sont à l'intérieur de celle-ci, au premier rang desquels les hommes. Donc je voudrais passer maintenant à la seconde tradition dont je vous ai entretenu dans l'introduction, celle qui considère que nos relations avec les bêtes sont, ou plutôt devraient être guidées par la compassion du simple fait que les bêtes sont capables de souffrir. Alors, revenons quelques secondes, si vous le voulez bien, sur saint Thomas. Selon saint Thomas, on l'a vu, la souffrance des bêtes importe dans l'ordre de l'affectivité réglée par la passion sensible et non pas dans l'ordre de l'affectivité réglée par la raison. Alors, quelle va être la stratégie que j'appellerais compassionnelle? Eh bien, elle va consister à considérer que cette distinction entre les deux sensibilités n'a pas lieu d'être, ou du moins qu'elle a un contenu tout à fait différent de celui que lui donnait la tradition thomiste, par exemple. Alors, l'idée essentielle, c'est que les êtres sensibles sont aussi des êtres d'émotions et de sentiments, et que la morale n'est pas, en son principe, une entreprise visant à anéantir ou à humilier ses émotions et ses sentiments, mais au contraire, à leur articuler, à les articuler et à leur donner forme. Il n'est donc pas d'emblée évident, dans une telle perspective, que la sensibilité réglée par la raison vaille mieux que la sensibilité réglée par la passion. Il peut exister, en effet, de mauvais usages de la raison, mauvais usages d'autant plus insidieux qu'ils ne sont pas reconnus comme tels. Et donc, le discours de supériorité à l'égard des animaux pourrait être simplement un discours de légitimation de la domination. Cette approche de la question se traduit ordinairement par la mise en place d'une éthique de la compassion. Alors, par malheur, avant d'essayer d'exprimer le contenu de cette éthique, par malheur, je voudrais faire observer quand même que les penseurs qui s'inscrivent dans une telle perspective n'ont pas toujours fait preuve d'assez de précision dans leurs propos. Par exemple, Montaigne, dans ses essais, avoue avec un certain panache qu'il a de la sympathie pour les animaux. Il précise qu'il ne saurait, sans déplaisir, voir poursuivre et tuer une bête innocente et sans défense, de qui personne n'a reçu aucune offense, aucun dommage. Mais à peine a-t-il affirmé cela, qu'il ajoute qu'un certain devoir d'humanité rattache les hommes non seulement aux bêtes, mais encore aux arbres et aux plantes. Ce qui revient à élargir la communauté morale, vous en conviendrez, bien au-delà du monde animal. Et on trouve chez Albert Schweitzer, qui à vrai dire n'attache pas beaucoup d'importance à la sensibilité comme telle, une démarche encore plus radicale. Son éthique, qui est, comme vous le savez probablement, une éthique de la révérence pour la vie, commande à l'homme vraiment moral de faire attention de ne pas écraser d'insectes, mais encore à ne pas cueillir de fleurs, à ne pas arracher les feuilles des arbres, et même, dit-il quelque part, à ne pas écraser des cristaux de glace qui brillent au soleil. Et là, du coup, la révérence pour la vie concerne même des êtres qui ne sont pas vivants, comme des cristaux de neige ou de glace. Par ailleurs, si certains des penseurs qui défendent une éthique de la compassion n'ont pas fait preuve d'assez de précaution, d'autres n'ont pas fait preuve d'assez de prudence, purement et simplement. Et je pense par exemple aux propos péremptoires de Richard Wagner sur l'imposture de la science spéculative dans une célèbre lettre écrite à Ernst von Weber, et je pense encore plus, comme exemple de manque de prudence, au jugement de Schopenhauer qui attribue au photor judaicus, à la mauvaise odeur juive, le manque d'égard prévalent en Europe à l'égard des bêtes. Ce n'est pas une façon de parler très maligne. Mais quoi qu'il en soit, regardez en quoi consiste l'originalité de l'approche compassionnelle. Elle constitue, en un sens, le symétrique d'une argumentation qui a été classique. Classiquement, on s'était efforcé de montrer que les animaux participent en quelque façon au logos, à la raison, et qu'ils sont de la sorte suffisamment apparentés aux êtres humains pour que ceux-ci commettent une injustice en les maltraitant. Que vont faire les partisans d'une approche compassionnelle? Eh bien, ils admettent d'emblée que l'intelligence et la raison ne font pas grand-chose à l'affaire, mais que le point important, c'est la capacité de souffrir commune à l'homme et à la bête. C'est elle, pense-t-il, qui justifie l'inclusion de l'animal dans la communauté morale. On pourrait dire, en présentant les choses de façon un peu compacte, que appareillés pour souffrir comme les êtres humains, les animaux leur sont apparentés sous ce rapport. Et on pourrait ajouter, c'est le principe de l'attitude compassionnelle, que là où la pitié est de mise pour les êtres humains, elle est également de mise pour les animaux. Bien. Ceci étant, cette intuition qui paraît à première vue simple et même séduisante intellectuellement, elle n'est pas si facile que ça à justifier. Et je voudrais vous montrer comment les choses se passent chez Jean-Jacques Rousseau dans son célèbre discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Que va faire Jean-Jacques Rousseau dans cet écrit? Eh bien, son dessein, c'est un dessein très ambitieux puisqu'il s'agit de mettre un terme aux anciennes disputes, dit-il, relatives à la participation des animaux à la loi naturelle. Alors, quelle va être sa solution? Eh bien, ça va être la suivante, de repérer chez l'homme, et peut-être même d'ailleurs chez les bêtes elles-mêmes, une impulsion intérieure à la commisération. Qu'on caractérise cette impulsion comme une répugnance innée à voir souffrir son semblable ou comme un sentiment qui nous met à la place de l'être souffrant, c'est secondaire. Car, d'après Rousseau, cette pitié s'éveille normalement au spectacle de n'importe quelle souffrance. Peu importe par quel mécanisme, empathie, sympathie, identification, peu importe par quel mécanisme l'animal spectateur va se rattacher à l'animal souffrant, l'important, c'est que pour Rousseau, la pitié, antérieure et peut-être même supérieure à la raison, modère en chacun, homme et bête aussi bien, la force de l'amour qu'il éprouve pour lui-même et le détourne d'abuser de sa puissance envers le faible. En d'autres termes, Rousseau imagine qu'il y a une espèce de frein intérieur qui empêche le vivant de s'en prendre au vivant et l'homme de s'en prendre à l'animal. Mais il faut bien voir que cette analyse que je vous ai donnée en me reformulant un peu à ma façon le texte de Rousseau, elle va brusquement s'infléchir dans le livre dont je vous parle. En effet, jusque-là, Rousseau parlait de la pitié comme d'un sentiment naturel, parfaitement approprié à des êtres aussi faibles et sujets à tant de maux que le sont les êtres humains. Et brusquement, après en avoir parlé comme d'un sentiment naturel, le voilà qui se met à en parler comme d'une voix qui ordonne, je le cite, « Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible ». Fin de citation. Ce qui revient à dire que l'on est passé d'une proposition exprimant une valeur, la pitié est naturelle, à une proposition formulant une injonction, « Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible ». Alors, ce n'est pas que, absolument parlant, ce soit interdit de passer d'une description à une injonction. En effet, un jugement de valeur, comme son nom l'indique, attribue une valeur à un état de choses et une injonction prescrit à un individu la réalisation de cet état de choses. Si l'on admet que l'on peut considérer une norme comme une injonction généralisée, l'intermédiaire tout indiqué pour mettre en relation un jugement de valeur et une injonction, c'est une norme. Mais une telle mise en relation n'est possible que s'il est question, dans le jugement de valeur, dans l'injonction et dans la norme, du même état de fait. Or, dans ce passage de Rousseau, ce n'est tout simplement pas le cas. Le jugement de valeur fait du sentiment de pitié un sentiment naturel, l'injonction préconise de faire son bien avec le moindre mal possible. Où est l'intermédiaire? Quelle est la relation entre les deux? Je crois que Rousseau ne le dit pas. Et donc, je crois qu'il manque, pour le moins, quelques médiations dans la démarche de notre auteur. Je vous ai donc parlé de cette seconde tradition, celle qui insiste sur la pitié comme valeur sinon réalisée, du moins désirable dans nos rapports avec les animaux, et je vous ai indiqué que, contrairement aux apparences, elle est peut-être plus difficile à justifier qu'on pourrait le croire. Mais les remarques qui précèdent nous ont fait faire quelques pas, peut-être abstraits, peut-être ardus, en direction de la théorie morale. Alors, je vous propose d'en franchir maintenant quelques autres et d'examiner maintenant une analyse qui pense notre relation avec l'animal directement à la lumière d'un système éthique. Et je pense, c'est la troisième tradition, à l'utilitarisme. Alors, à première vue, ça peut sembler étrange de voir dans l'utilitarisme une théorie morale qui a quelque chose de spécial à dire à propos de l'animal. Pourtant, il existe une formule de Bentham qui compare le sort des esclaves et le sort des animaux. Bentham, qui est le père fondateur de l'utilitarisme, va se demander dans cette formule s'il y a de bonnes raisons pour abandonner sans défense les animaux aux mains de quelqu'un qui les tourmente. Et sa réponse négative, il la justifie en ces termes, je le cite, « La question n'est pas « peuvent-ils raisonner ?» ni même « peuvent-ils parler ?» mais « peuvent-ils souffrir ?» Fin de citation. Il semble, à première vue, qu'il n'y ait là rien de plus qu'une éthique de la compassion, qu'une attitude de compassion envers la bête, susceptible d'inspirer une éthique de la pitié. Mais en profondeur, les choses sont assez différentes. Et pour comprendre ce dont il s'agit, il faut avoir un peu une idée de la façon dont est articulée une théorie morale comme l'utilitarisme. Il s'agit, excusez-moi de vous infliger des termes en isme, il s'agit d'un conséquentialisme, c'est-à-dire d'une théorie où les actes, les règles, les agents et les institutions sont évalués moralement en fonction de leur contribution à un état du monde où on trouve réalisée une valeur, typiquement une valeur non morale, tenue pour le bien suprême. Si un acte promeut cette valeur plus qu'un autre, il lui est moralement préférable. S'il promeut cette valeur au plus haut degré, il est le meilleur acte possible. L'accomplir est donc, pour l'agent moral, une obligation. Chez Bentham, cette valeur suprême, c'est le bonheur, défini en termes de plaisir éprouvé et, pour des raisons historiques pas très intéressantes, il est d'usage de nommer cette valeur l'utilité. On doit donc apprécier les agents moraux et leurs actes en fonction de leur contribution à un monde plus heureux. Mais pour Bentham, même si ça pose des difficultés, la formule d'un monde plus heureux, elle tient dans l'énoncé suivant, le plus grand bonheur du plus grand nombre. En conséquence, l'agent moral utilitariste se demandera au moment d'agir comment ses actes peuvent contribuer à une telle réalisation. Idéalement, les choses se passent de la façon suivante. Il va commencer par identifier les différentes options qui se fera lui. Je peux faire ceci, ceci, ceci ou ceci. Et une fois ces différentes options identifiées, il va essayer de déterminer pour chacune d'elles, selon une procédure quasiment algorithmique, c'est-à-dire selon un calcul, l'utilité qui en résultera, en tenant compte dans ce calcul de tous ceux qui vont être affectés par son choix, lui-même compris. Chacun compte pour un, personne ne compte pour plus d'un. Si donc, volontairement ou involontairement, sont négligés des individus susceptibles d'éprouver du plaisir ou de la douleur, le calcul sera faussé à la base. Il existait peut-être un autre état du monde où encore plus d'utilité, encore plus de bonheur était possible, et on ne l'a pas fait venir à l'existence. Le choix opéré est donc moralement condamnable, et d'autant plus condamnable que c'est délibérément qu'on a ignoré les intérêts de certains. Et du même coup, on voit que la formule initiale de Bentham n'exprime pas une éthique de la pitié ou une éthique de la compassion. Dans toute cette analyse, le maître mot est celui d'intérêt, pas celui de pitié. Ne pas tenir compte du fait que des créatures sensibles puissent éprouver du plaisir ou de la souffrance, c'est nier leurs intérêts. Mais il y a lieu de croire que beaucoup d'animaux sont de telles créatures sensibles, et donc qu'elles font de plein droit partie de la communauté morale, c'est-à-dire de la classe des êtres à propos desquels on doit se demander une question, on doit se poser une question du genre, jusqu'à quel point, m'imaginant moi-même à la place de quiconque sera à tour de rôle affecté par une action comme celle que je suis en train d'envisager, jusqu'à quel point accepterai-je ou au contraire refuserai-je que cela m'arrive. Et donc voilà le principe de base de cette troisième tradition à l'égard de l'animal. Elle repose sur le fait que les animaux ont des intérêts et qu'il est purement et simplement immoral de les nier. Que les animaux aient des intérêts, ça, les utilitaristes l'ont rarement mis en doute. Mais déterminer le contenu de ces intérêts, ne va pas toujours de soi. Bentham, par exemple, Jeremy Bentham lui-même, s'est prononcé en disant ceci: les êtres humains peuvent tuer les animaux pour les manger, par exemple, et il justifie cela en disant: les êtres humains s'en trouvent toujours mieux et les animaux ne s'en trouvent jamais plus mal. Et cette formule a d'ailleurs sa converse. Parfois, les êtres humains se trouveraient plus mal du fait que les animaux restent en vie, alors que ces derniers ne se trouvent jamais plus mal d'être morts. Donc vous voyez que si Bentham admet qu'il y a des intérêts animaux, il en fait des intérêts relativement légers. En fait, ces jugements qui vous ont fait sourire et qui sont effectivement à première vue surprenants, c'est l'application directe d'un principe utilitariste qui a posé de terribles problèmes aux utilitaristes, principe selon lequel la mort sans souffrance est un mal naturel moins grave que des souffrances importantes qui ne conduisent pas à la mort, d'où il s'ensuit qu'infliger la mort sans faire souffrir est moralement moins grave que faire souffrir sans infliger la mort. Donc vous voyez que ça pose un certain nombre de problèmes d'aborder le problème en ces termes. Je pense tout simplement, pour sortir de la question des animaux, à la question de l'euthanasie, où là, véritablement, les utilitaristes ne sont pas toujours très à l'aise. Et puis, en fait, les choses sont encore plus complexes, parce qu'il existe certaines versions de l'utilitarisme qui opèrent une distinction entre les êtres simplement conscients, capables d'éprouver plaisir et souffrance, et ceux qui ont la conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont une vie mentale assez complexe pour former des préférences sur le long terme et chercher à satisfaire celles-ci. C'est le cas, par exemple, chez un philosophe australien contemporain qui s'appelle Peter Singer. Donc, au total, les utilitaristes admettent qu'il existe de très fortes raisons de prohiber la mise à mort d'un être conscient et des raisons encore plus fortes de prohiber la mise à mort d'un être conscient de lui-même, mais que ces raisons ne sont jamais assez impérieuses pour rendre de telles prohibitions absolues, pour les hommes et pour les bêtes. Alors évidemment, cette façon d'aborder les choses, j'aborde maintenant ma dernière tradition à l'égard de la bête, cette façon de voir les choses a soulevé pas mal de critiques. Bien sûr, chez ceux qui admettent qu'il existe une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais également chez ceux qui défendent une théorie des droits de l'animal. Et je voudrais indiquer les grandes lignes d'une telle démarche, telle qu'elle s'exprime d'une façon particulièrement exemplaire chez un philosophe américain contemporain qui s'appelle Thomas Reagan. Un mot d'abord sur la façon dont fonctionne une théorie morale des droits. Un droit, avec un D minuscule, un droit individuel, ça peut être comparé à un périmètre protecteur instauré autour d'un individu. Et la violation de ce droit peut être comparée à une intrusion dans ce périmètre protecteur. L'idée essentielle est la suivante: les droits imposent des restrictions. Envers le titulaire d'un droit, toute action n'est pas permise. Ceci étant, les seules restrictions qui comptent vraiment comme des restrictions fondées sur le droit sont celles qui sont fondées sur la reconnaissance d'une valeur. Le titulaire d'un droit est un être qui a une valeur, et par exemple, dans le cas des droits de l'homme, on invoquera comme valeur l'autonomie de la personne ou la dignité de l'être humain. Donc, le désaccord ultime entre un utilitariste comme Bentham ou comme Singer et un partisan des droits va porter sur la question de la valeur. En effet, pour un utilitariste conséquent, les seules valeurs absolues sont le plaisir, dans sa version hédoniste, ou la satisfaction d'une préférence, dans sa version utilitarisme de la préférence. Et ce que cherche à réaliser l'agent moral utilitariste, c'est un monde dans lequel un maximum de plaisir est réalisé, ou un maximum de préférences satisfaites, ou un mixte des deux. Mais pour un partisan des droits comme Thomas Reagan, ça ne va pas. En effet, lui va interpréter tout ce discours de la façon suivante. Ce qui fait, aux yeux des utilitaristes, la valeur des individus, ce sont les expériences qu'il peut avoir en tant qu'elles contribuent à la réalisation d'un monde où le solde des utilités positives par rapport aux utilités négatives sera le plus important. Pour reprendre une image énergique de Thomas Reagan lui-même, pour un utilitariste, c'est le breuvage que l'on met dans la tasse et pas la tasse qui a de la valeur. Et donc, par conséquent, on considère, quand on se situe du côté d'une analyse en termes de droit, on considère que l'utilitarisme n'est pas capable de protéger l'individu avec un périmètre protecteur assez fortifié. Par exemple, rien n'interdit de penser qu'on pourrait atteindre une utilité maximale en sacrifiant les intérêts vitaux d'une minorité aux intérêts triviaux d'une majorité. Par exemple, en sacrifiant une minorité d'éléphants pour avoir des boules de billard qui feraient plaisir à une majorité de joueurs de billard. Donc, l'utilitarisme n'est pas capable, disent les partisans des droits, comme Reagan, de garantir une protection efficace à l'individu, car celui-ci n'est considéré que comme un porteur d'intérêts. Le seul droit de l'individu, c'est que ses intérêts soient pris en compte impartialement, mais une fois le calcul effectué, eh bien, rien ne dit que tel ou tel individu ne devront pas être sacrifiés à l'utilité de tous. De telles critiques, est-il besoin de le souligner, sont aussi anciennes que l'utilitarisme lui-même. Et l'originalité de Thomas Reagan ne consiste pas tant à estimer que seule l'existence de droits antérieurs et supérieurs aux conventions sociales est susceptible de mettre les individus à l'abri des abus, mais son originalité consiste à admettre que de tels droits sont attribuables également aux animaux. En effet, pour Thomas Reagan, la valeur qui suffit à générer des droits, c'est la subjectivité. Mais ce qu'il entend par subjectivité, c'est toujours lié au fait d'être vivant. Pour Thomas Reagan, la subjectivité, c'est la subjectivité des êtres qui sont, il met des traits d'union entre tous les mots de cette expression, qui sont les sujets d'une vie. Concrètement, il s'agit, cette subjectivité, il s'agit de la propriété d'une vie mentale assez complexe pour que ceux qui la mènent considèrent que ce qui leur arrive leur importe. What happened to them matters to them. Ce qui leur arrive leur importe. La complexité de la vie mentale est chez lui conçue sur le modèle du seuil. Ou bien on l'a, ou bien on ne l'a pas. Si la vie mentale est assez complexe, on a tous les droits possibles et imaginables, lesquels ne sont ni négociables, ni échangeables, et il justifie qu'on s'interdise à leur égard toutes sortes de traitements. Restrictions qui sont avancées par Thomas Reagan, envers les êtres humains ou animaux, peu importe, qui ont une vie mentale assez complexe, on ne peut pas les manger, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas les pêcher, on ne peut pas les mettre aux zoos, et on ne peut même pas, différence très importante avec les utilitaristes, pratiquer à leur égard une expérimentation quelconque. Pour conclure, je vous ai présenté donc ces quatre traditions qui essayent de structurer moralement nos relations avec les animaux. Pour conclure, je voudrais indiquer certaines limites de ces théories que je viens d'exposer et suggérer une approche alternative, la mienne, à la question des relations entre l'homme et l'animal. Bien. Toutes ces théories, en particulier je pense à celles de Peter Singer et de Thomas Reagan, elles se distinguent par leur axiologie, leur méthodologie, leur épistémologie morale, etc., etc., et puis bien sûr leurs conclusions, mais il semble qu'elles présentent quand même, sur un point crucial, une grande ressemblance de famille. De quoi s'agit-il ? Prenons Singer et Reagan. Ils ont une stratégie qui est en trois points. Premier point, repérer chez les êtres humains un trait qui permette de justifier leur appartenance à la communauté morale. Chez l'un, Peter Singer, c'est l'existence de préférences rationnelles. Chez l'autre, c'est le fait d'être des sujets autonomes de leur vie. Deuxième point de la stratégie. L'un et l'autre vont chercher ensuite à distinguer chez les animaux une caractéristique les rendant assez semblables aux êtres humains pour qu'on conclue que les animaux aussi font partie de la communauté morale. Chez l'un, c'est l'existence de quasi-préférences ou à défaut la présence de la sensibilité qui est retenue. Chez l'autre, c'est la présence d'une vie mentale suffisamment complexe. Troisième point de la stratégie, l'un et l'autre en concluent que les animaux font bel et bien partie de la communauté morale et se demandent alors ce que l'on doit faire et ne pas faire pour les traiter d'une façon éthiquement convenable. Mais une telle stratégie, qu'on qualifie parfois d'extensionniste, ne tient qu'aussi longtemps qu'on détecte chez l'homme et la bête des propriétés assez semblables. C'est particulièrement visible chez Thomas Reagan, qui se donne à plusieurs reprises la peine de définir l'animal comme suit, je le cite, « mammifère normal, âgé d'un an ou plus ». Fin de citation. Cette définition a, du point de vue de son auteur, le mérite d'attirer l'attention sur le fait que les êtres humains sont eux aussi des créatures animales, même si ce ne sont pas des animaux comme les autres, ce que personne ne nie. Mais c'est une définition qui paraît parfaitement loufoque à qui connaît suffisamment bien le monde animal pour savoir qu'il s'y rencontre toutes sortes de vies trop peu semblables à celles des êtres humains ou trop infimes pour qu'une telle stratégie soit opérante. C'est pourquoi ceux qui considèrent que toutes les formes de vie animale, et à plus forte raison ceux qui considèrent que toutes les formes de vie comptent, ont contesté la démarche Singer-Reagan au motif qu'elle reste, malgré les apparences, centrée autour de l'être humain. Et c'est pourquoi on a assisté ces dernières années à toutes sortes de tentatives pour constituer une éthique intégrant le vivant comme tel dans la communauté morale, ce qu'on appelle quelquefois le biocentrisme, ou pour constituer une éthique à la mesure de l'environnement, ce qu'on appelle quelquefois l'écocentrisme. En parler dans le détail reviendrait à entamer une seconde conférence, et ça, je ne veux pas vous l'infliger. Et je voudrais donc simplement vous dire comment, moi, je propose une solution qui aille peut-être un peu au-delà. Il me semble que ceux qui ont raisonné en termes d'intérêt ou de droit pour inclure les animaux dans la communauté morale ont mal défendu leur position parce qu'ils ont cherché à étendre aux animaux individuels, domestiques puis sauvages, une protection comparable à celle dont jouissent les êtres humains. Mais dès lors que l'individualité n'est plus discernable, les intérêts ou les droits ne sont plus assignables et ça se produit très vite dans le monde animal où on peut se demander quels sont les droits des fourmis, des abeilles ou des êtres de ce genre. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire le chemin dans l'autre sens et de partir de la nature sauvage pour remonter jusqu'aux sociétés humaines. Et je m'inspire pour cela d'une suggestion d'un Américain qui s'appelle Mark Sagoff, suggestion que je vais infléchir toutefois dans un sens qui n'est pas tout à fait le sien. Dans un recueil d'articles assez récent qui date des années 80 et qui s'intitule « The Economy of the Earth », l'économie de la Terre, Mark Sagoff va mener une réflexion critique sur les lignes de conduite en matière de choix industriels et sociaux. Alors, comme je vous l'ai dit, Sagoff est américain, le contexte est fortement nord-américain et la cible de Sagoff, c'est une façon de décider les choix économiques et sociaux sur la base d'une analyse coût-bénéfice. On met les coûts d'un côté, les bénéfices de l'autre, et la ligne qui est choisie, c'est celle où les bénéfices sont maximisés par rapport aux coûts. À qui procède ainsi, à qui se livre à des choix sociaux ou industriels sur la base d'une telle analyse, certains effets indésirables de la ligne de conduite envisagée, comme par exemple problèmes de santé publique, nuisances diverses, destruction d'espèces sauvages, vont apparaître comme des défaillances du marché. L'activité d'un agent économique risque d'occasionner une perte de bien-être à un autre agent économique. Si on n'évalue pas correctement le prix de la santé publique maintenue, le prix des paysages intacts, le prix de la survie des espèces, cette perte ne sera pas compensée. Alors, il existe bien entendu de nombreuses procédures qui permettent de remédier jusqu'à un certain point à ces défaillances du marché, la prise en compte des externalités, etc., etc. Mais c'est le principe même d'un tel calcul que Marc Sagoff va contester. S'il met en cause ce qu'on pourrait appeler le ressourcisme, la nature c'est une ressource à la disposition des hommes, ce n'est pas au nom d'une valeur inhérente ou intrinsèque de la nature ou des droits de la nature ou des animaux, il va se demander simplement quel est le statut des lois destinées à protéger la santé publique, les paysages ou les espèces. Ces lois, pense-t-il, et je crois qu'il a raison, ne sont pas des outils destinés à affiner le calcul économique. Elles expriment, dit-il, je le cite, « ce que nous croyons, ce que nous sommes, ce que nous représentons à titre de nation, pas seulement ce que nous désirons acheter à titre d'individu. » Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit peut-être plus intelligible. Si l'existence du pirargue à tête blanche, nous savons Eliaetus leucocephalus, si l'existence du pirargue à tête blanche était menacée par un projet d'implantation industrielle, c'est certain que aux États-Unis, ce projet serait abandonné. Bon. S'agirait-il d'éviter une perte de bien-être aux amoureux de la nature ? Non, je pense, car l'animal dont je vous parle, c'est n'est autre que l'aigle chauve, typiquement américain, que l'on retrouve sur les armoiries des États-Unis, sur certains des timbres qui ont été émis à l'occasion des Jeux olympiques de Los Angeles et d'Atlanta, sur l'insigne de manche de la 101e division aéroportée, Screaming Eagle, ceux qui ont vu Soldat Ryan savent ce que c'est. Bref, cet oiseau qui est remarquablement illustré, par exemple, par Audubon dans The Birds of America, a, en un mot, une valeur de symbole. Alors vous me direz, évidemment, qu'une telle analyse est communautariste et qu'on peut toujours rétorquer que la valeur symbolique de l'aigle chauve n'est pas perceptible à un Britannique ou à un Français. À chaque tribu, ses totems. Alors c'est vrai, une telle objection me paraît tout à fait fondée. Mais dépouillons la thèse de Sagoff de sa dimension communautariste. Elle peut alors signifier ceci. La nature sauvage et les êtres qui la peuplent sont un élément essentiel de la constitution de l'identité des êtres humains. Et il en est ainsi parce que la nature sauvage et les êtres qui la peuplent nous donnent à voir ce qui n'a pas été instrumentalisé et nous suggèrent par là ce que pourrait être un individu moins fragmenté, moins éparpillé, moins plongé dans ce qu'on a appelé quelquefois le désespoir tranquille de l'homo economicus. Je ne veux pas dire par là que la nature sauvage nous donne des exemples à suivre, je veux dire simplement qu'elle nous rappelle que toutes les valeurs ne sont pas économiques, même si certaines valeurs sont économiques. Qui a compris cela parvient à un meilleur état de lui-même, et qui parvient à un meilleur état de lui-même aura certainement du mal à admettre comme allant de soi toutes sortes d'usages des animaux, sauvages ou domestiques. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.
Question. Alors, tout de suite, si vous pouvez descendre, tout de suite, très bien. Qui d'autre ? Signalez-vous un peu à l'avance.
Je dois dire que chacun a ses préférences et la théorie de la compassion me paraît quand même assez valable, d'autant que les arguments, disons, qui mettent d'autres valeurs en avant, même la raison, en fait, chez l'homme, sont bien souvent utilisés, et je crois que c'est normal, sont utilisés à base, elles ont à la base des phénomènes affectifs. Ce que je voulais simplement souligner, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait, justement pour voir si l'animal souffre et dans quelle mesure il souffre, utiliser certaines techniques? Par exemple, on nous a présenté les systèmes de récompense et de punition chez l'animal, donc il est clair que les neuroscientifiques pensent que l'animal souffre. D'autre part, il y a des études faites par les anesthésistes pour indiquer une profondeur de l'anesthésie et donc une disparition de la souffrance qui nous fait cerner le phénomène douleur de beaucoup plus près que ne peut le faire des gens qui ne sont pas des biologistes. Alors, je voulais vous demander simplement si vous ne pensez pas que là, on pourrait cerner dans quelle mesure l'animal souffre ou non. Et alors, il faudrait insister aussi sur les méthodes alternatives qui ont déjà été décrites, c'est-à-dire utilisation de cultures de cellules et non pas d'organismes entiers, et c'est-à-dire certaines interventions sur le cerveau qui suppriment la douleur.
Oui. En fait, il y a plusieurs aspects à votre question. Vous posez une question de fait qui est-ce que les scientifiques, les biologistes, etc. S'intéressent à ces questions? Mais oui, bien sûr. J'ai fait allusion à l'École nationale vétérinaire d'Alfort au début de mon topo, et il est notoire que, aussi bien à l'INRA qu'à dans les écoles vétérinaires, etc., on cherche à repérer des indicateurs objectifs de la souffrance animale. Bon, c'est particulièrement le cas, par exemple, dans les animaux qui sont soumis à des formes d'élevage industriel ou des choses de ce genre-là. Donc on a mené des expériences qui essayent de déterminer quels sont les marqueurs objectifs de la souffrance. Alors ça peut être des marqueurs comportementaux, si on voit se développer des comportements aberrants par rapport au comportement normal de l'espèce. Ça peut être des marqueurs chimiques, ça peut être des marqueurs biochimiques, par exemple on recherche des endorphines, etc., etc. Et donc, bien sûr qu'on a certainement déjà travaillé là-dessus. Il existe des livres sur la question et, à certains égards, ce sont des expériences qui sont en cours. Alors, maintenant, vous parlez de développer des techniques alternatives. C'est donc sûrement que vous faites allusion à l'expérimentation animale, par exemple. Oui, donc oui, certainement. Là aussi, on a développé des modèles alternatifs, culture de cellules, simulation sur des modèles informatiques, etc. Il y a réduction du nombre des animaux par une meilleure élaboration des protocoles qui sont mis en œuvre, et ainsi de suite. Bon, tout ça, ça existe. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Il y a une pression de l'opinion publique qui amène aussi les gens qui travaillent dans ce domaine à faire attention à ce qu'ils font. Il y a une pression très importante qui joue, c'est que maintenant, dans les revues biologiques, il y a des comités de lecture qui n'acceptent plus purement et simplement des articles qui auraient été menés sur la base d'une expérimentation mal faite, mal documentée, mal interprétée, etc., etc. Bien. Tout ça, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne voit qu'un aspect de la question. Ça voit ces animaux qui nous ressemblent suffisamment pour que dans leur comportement, quelque chose nous paraisse aberrant, mais ça n'est pas une relation entre le monde animal et le monde humain en général. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tas d'animaux dont on n'a pas l'impression qu'ils souffrent, comme les méduses, les fourmis, les abeilles ou que sais-je encore, et c'est là, me semble-t-il, que l'éthique de la compassion montre ses limites. Parce que clairement, pour que compassion il y ait, moi, je prends une option par rapport à ce que j'ai dit, que Rousseau, lui, ne prenait pas, mais je pense que pour qu'il y ait compassion, il faut qu'il y ait identification. Or, je peux bien m'identifier, par exemple, à un pongidé qui serait impliqué dans une expérience douloureuse, absurde, aberrante, etc., mais Comment s'identifier une méduse échouée sur une plage? Comment s'identifier à la légendaire fourmilière dans laquelle on a donné un coup de pied et où on voit les fourmis partir dans toutes les directions? Il y a peut-être une souffrance, ça paraît une souffrance en tout cas, à laquelle il est difficile de s'identifier. Moi, je crois que la limite de l'approche compassionnelle, c'est qu'il y a tout simplement des formes de vie animale qui pour lesquels on n'éprouve guère de compassion. Il y a des animaux antipathiques, les mygales ou des choses de ce genre-là. Donc, si vous voulez, le problème de l'approche compassionnelle pour structurer une attitude générale à l'égard du monde animal, c'est qu'elle est trop limitée aux animaux qui nous ressemblent. Je crois qu'il y a des animaux qui ne nous ressemblent pas, qui peut-être ne souffrent pas, ou peu, ou d'une façon très, très diffuse et qui, où la conscience de soi n'intervient pas, et qu'il n'y a pas de raison de les négliger parce qu'ils ne nous ressemblent pas.
Monsieur ? Oui. L'idée qu'il soit possible, et en tout cas non illégitime, de faire souffrir des animaux pour les besoins de l'homme est fort ancienne. Je me souviens que dans mon enfance, j'avais été très choqué, par exemple, de voir que quand D'Artagnan accomplit un énorme trajet à cheval pour porter un message au roi et qu'on dit qu'il a eu 5 chevaux crevés sous lui, on annonce ça comme un grand exploit de D'Artagnan. On ne pense pas du tout aux 5 chevaux. Il me semble que l'un des fondements de cette autorisation qu'on se donnait, c'était de dire que les animaux n'avaient pas d'âme, contrairement aux hommes. Et je remarque que cette idée-là a été reprise ensuite pour justifier l'esclavagisme, en disant, de même que les animaux, les noirs n'ont pas d'âme, donc on peut se conduire envers eux comme on se conduit envers les animaux. Et la question que je me pose, c'est celle-ci. Est-ce que l'idée que le droit de faire souffrir les animaux n'a pas perduré aussi parce que c'était une possibilité offerte à ceux qui voulaient persécuter les humains en les faisant passer pour des animaux?
Oui. Alors, en fait, là aussi, votre question a plusieurs aspects, si vous voulez. Je pense que personne ne dirait aussi brutalement « les animaux n'ont pas d'âme ». Dans la première tradition à laquelle j'ai fait allusion, l'idée c'est plutôt que les animaux ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ils sont créés par Dieu, mais pas à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est un privilège qui n'appartient qu'à l'homme. Et donc, c'est pas que l'âme animale n'existe pas d'emblée dans le livre de la Genèse. Au contraire, il est dit que le souffle qui anime tous les vivants est le même. Bon, ceci étant, je crois quand même que dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est que le discours qui légitime l'autorité de l'homme, l'autorité sans limite de l'homme sur l'animal, c'est un discours qui structurellement ressemble beaucoup a beaucoup ressemblé au discours qui a légitimé, entre guillemets, par exemple, l'esclavage. Ça, c'est évident. Si on regarde dans l'histoire les textes par lesquels on justifie l'esclavage, on s'aperçoit qu'ils ont une grande analogie structurelle avec les textes qui légitiment l'autorité de l'homme sur les bêtes. Par exemple, chez Aristote, dans le livre 1 des Politiques d'Aristote, vous avez une très curieuse justification de l'esclavage, où l'esclave est présenté par Aristote comme étant à la jointure de trois ordres qui sont l'ordre de l'humanité, l'ordre de l'instrumentalité et l'ordre de l'animalité. Alors ça, c'est tout à fait caractéristique que de dire de l'être qu'on cherche à dominer, après tout, il est comme une bête. Et c'est un discours qui a eu dans l'histoire une postérité très longue. Enfin, encore au XVIe siècle, c'est Puvelda qui justifiait la domination des Indiens d'Amérique en disant qu'ils ne se situaient pas exactement dans l'ordre de l'humanité. Vous voyez ?
Une dernière question. Une dernière. Hein.
Est-ce que vous pouvez expliciter un peu le point de vue de Kant et dire sur quoi il se fonde ?
Oui, alors, Le point de vue de Kant, si vous voulez, je vous renvoie aux premières lignes de l'anthropologie du point de vue pragmatique de Kant, qui est un texte dans lequel Kant dit sans nuance, enfin disons sans une espèce de discours théorique qui n'est pas toujours facile à suivre, où est la différence entre l'homme et la bête. Et il dit, alors excusez-moi, je le cite de mémoire, il dit « posséder le jeu dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus des choses, comme le sont les animaux sans raison dont on peut disposer à sa guise. Bon. » C'est-à-dire que la thèse kantienne, c'est une thèse selon laquelle, à certains égards, l'homme est libéré de l'ordre des déterminismes naturels. Bon. Et donc il y a ce qu'on pourrait appeler l'autonomie, l'homo phainomenon et l'homo noumenon, enfin bon, tout ça c'est le discours kantien standard. Et la thèse de Kant, si vous voulez, c'est qu'il existe une différence de nature entre l'homme et l'animal. L'animal est entièrement soumis au déterminisme de la nature, l'homme peut s'en abstraire. Ça, c'est le principe. Ceci étant, ce qu'ajoute Kant, il faut bien voir, Kant dit on peut disposer des choses comme le sont les animaux sans raison, à sa guise. Et ça ne veut pas dire les traiter n'importe comment et les traiter cruellement ou brutalement, ça veut dire, rappelez-vous la métaphysique des mœurs, les traiter comme des moyens seulement. L'homme, pour Kant, on ne peut jamais le traiter comme un moyen seulement. L'animal, on peut le traiter comme un moyen seulement. Et Kant n'en conclut pas qu'on peut le traiter, l'animal, n'importe comment. Il dit, on doit le traiter de façon telle que sa propre humanité à nous, enfin que notre propre humanité à nous les hommes, ne soit pas compromise dans une domination absolument sans limite à l'égard des bêtes. Donc il dit, il y a des exemples très, très curieux de Kant où il pose des questions casuistiques, qu'est-ce qu'on doit faire d'un vieux chien qui n'est plus capable de chasser ou d'un vieux cheval qui n'est plus capable de tirer un carrosse ou une charrette. Et Kant dit, eh bien, quelqu'un qui les abattrait parce qu'ils ne sont plus capables de ça, c'est lamentable. Il dit, il doit y avoir un minimum de pitié à l'égard de la bête. Les traiter comme à sa guise, ça veut dire les traiter comme des moyens seulement, mais il ajoute de façon humaine. Simplement, il n'y a pas l'idée que la bête est capable, si je puis employer cette expression un peu anachronique, de s'élever au-dessus de l'ordre du déterminisme naturel et d'exercer son autonomie, sa liberté, le moi transcendantal, etc. etc.
Merci.